Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, on s'arrête quelques semaines pendant l'été, mais on s'est dit que ça serait chouette de vous laisser en partant un cours particulier à écouter avec un grand penseur contemporain. Ce penseur, c'est Didier Ribon, c'est en deux épisodes. Alors bel été et bonnes vacances si vous en prenez. Les couilles sur la table, épisode surprise. Bonjour Didier Ribon.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir enfin pour la fin de cette deuxième saison des couilles sur la table. Vous êtes philosophe et sociologue, vous enseignez à l'université d'Amiens et vous avez aussi enseigné à l'université de Berkeley en Californie aux États-Unis. Vous êtes l'un des pionniers en France des études gays et lesbiennes et c'est évidemment une question très importante dans l'émission qui a pour objectif d'analyser et de comprendre les masculinités contemporaines. On vous doit une vingtaine d'ouvrages, on ne peut pas tous les citer ici, mais disons que vous avez beaucoup écrit et réfléchi et fait avancer la pensée sur la gauche, sur la politique, sur les rapports entre la société et l'individu. Vous êtes spécialiste de la pensée de Pierre Bourdieu, de Michel Foucault, vous avez d'ailleurs écrit l'une de ses biographies. Et puis, en 1999, vous avez publié un ouvrage majeur qui fait toujours référence aujourd'hui, c'est « Réflexions sur la question gay ». C'est de ce livre dont on va parler dans la première partie de ce cours particulier, parce que c'est évidemment une question essentielle. Juste un chiffre pour remettre en contexte. En France, aujourd'hui, selon les dernières enquêtes que j'ai pu consulter, notamment de l'IFOP en 2014, il y a 7% des hommes qui s'identifient comme homosexuels. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble que c'est important pour comprendre votre œuvre et votre trajectoire intellectuelle et les questions sur lesquelles vous avez travaillé toute votre vie. Aussi pour les auditeurs, auditrices, les auditoristes qui ne vous connaissent pas, qu'on revienne sur votre parcours, que vous en disiez un mot. Vous l'avez raconté dans un livre magnifique qui a été joué au théâtre, qui s'appelle « Retour à Reims », que vous avez publié en 2009. Est-ce que vous voulez raconter ce parcours ou est-ce que je le raconte moi ?
Racontez-le. Bon. Ça m'intéresse de voir comment vous le racontez.
D'accord. Vous êtes né en 1953 à Reims, donc ça c'est votre date de naissance biographique.
Biologique.
Mais, biologique, mais on reviendra sur le fait que pour vous, comme individu, on peut aussi avoir d'autres dates de naissance. Vous dites parfois que vous êtes né au milieu du 19e siècle, au moment des grandes transformations industrielles de la France.
Oui, je suis un fils d'un ouvrier et d'une ouvrière. Enfin, quand je suis né, mon père était manœuvre dans une usine et ma mère femme de ménage, puis elle est devenue ouvrière. Donc, ma date de naissance, c'est aussi la révolution industrielle à la fin du 19e, la création des grandes usines où mes parents allaient entrer bien plus tard et passer leur vie dans ces usines qui justement étaient nées au cours de la révolution industrielle. Donc je suis un fils de la classe ouvrière et donc ma date de naissance, je peux dire, c'est la création de ces grandes usines. Mais ma date de naissance, c'est aussi la naissance d'un grand mouvement ouvrier. Donc ça peut être l'œuvre de Marx, ma date de naissance c'est le Front Populaire, les grandes grèves ouvrières. Mes parents étaient des enfants au moment du Front Populaire, mais par la suite, mon père notamment était un ouvrier très engagé. Il avait été mis à la porte d'une usine.
Parce qu'il était communiste.
Parce qu'il était comme meneur de grève. Il avait été licencié, il était accusé d'être le meneur de la grève, donc il avait été mis à la porte, ce qui évidemment était très difficile parce que quand on travaille et qu'on a des enfants, si on est mis à la porte, on n'a plus de salaire et donc je suis un fils du mouvement ouvrier, donc je peux dire des grandes grèves, du syndicalisme, j'allais dire un fils du Parti communiste, c'est un peu difficile à dire, mais dans ma famille, en effet, la gauche, être de gauche, ce qui est pour eux, pour mes parents et pour toute ma famille, voulait dire voter pour le Parti communiste dans les années 50, 60, 70, était quelque chose qui allait de soi. C'était le parti des ouvriers, de la classe ouvrière. Donc mes dates de naissance, elles sont multiples. Et je peux en donner une autre, puisque je suis un fils de la classe ouvrière, mais je suis aussi quelqu'un qui s'est éloigné de la classe ouvrière, notamment parce que se découvrant jeune, gay, dans un milieu qui, tout en étant de gauche, était très homophobe, le milieu ouvrier était, je pense en grande partie, reste très homophobe, a dû inventer une vie différente, s'échapper, fuir... Et donc, s'inventer une identité, des images, et je peux donc dire que je suis un enfant du... Ma date de naissance, c'est le procès d'Oscar Wilde en 1895, et les suites du procès d'Oscar Wilde, où le procès d'Oscar Wilde provoque un traumatisme dans la culture européenne, et beaucoup de gens se mettent à écrire en Angleterre, en France, en Allemagne, pour essayer de réagir à ça, de repenser ça, et on peut dire que l'identité gay moderne vient de ce procès d'Oscar Wilde et de ses suites,
de la
réaction, de la résistance à cette condamnation, d'essayer de se penser soi-même comme gay. Qu'est-ce que c'est qu'être celui qui a été comme celui qui a été condamné aux travaux forcés. Et donc je suis un enfant du procès d'Oscar Wilde. Donc ma date de naissance, c'est aussi le procès d'Oscar Wilde. Donc c'est la révolution industrielle, le procès d'Oscar Wilde, il y en aurait d'autres,
le Front populaire,
voilà.
etc. Et donc vous avez mentionné ces deux identités très importantes pour vous, enfin ces origines, parce que ce que vous racontez dans Retour à Reims, c'est que là vous en parlez avec fierté, en fait, de ces origines ouvrières, etc. Mais pendant longtemps, ça a été une grande honte pour vous. Et ce que vous racontez dans Retour à Reims, c'est que c'est seulement quand votre père est mort, quand vous aviez une cinquantaine d'années, que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ça avait été plus facile pour vous de parler de la honte sexuelle et de la honte d'être gay que de la honte de venir d'un milieu ouvrier.
En fait...
De la honte de classe.
Oui, quand je me suis découvert gay, dans ma famille... je raconte ça dans Retour à Reims, quand apparaissait un acteur gay ou supposé être gay, en l'occurrence il s'agissait souvent de Jean Marais, mon père criait à l'écran, tapette, pédale, c'est une tante. Du plus loin que je me souvienne, je sais que l'hostilité à l'homosexualité était présente dans ma famille de manière véhémente. Comme ça, et quand j'ai eu 14, 15 ans, j'ai commencer à comprendre que cette identité insultable et insultée quotidiennement dans ma famille, dans le milieu dans lequel je vivais, c'était ce que j'étais en train de une identité que j'allais habiter et qui était une identité stigmatisée. Et donc, ça produit un effet de terreur, d'effroi et de honte. C'est ce dont on ne peut pas parler, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui traite les homosexuels qu'il voit à la télé de tante, de tapette, de pédale, etc. toute la journée. On ne peut pas lui dire c'est de moi que tu parles. Or, moi, je savais que c'était de moi qu'il parlait, lui ne le savait pas. Et donc, la honte, le silence, le secret, le placard, qui sont des structures très importantes des vies, des dissidents de l'ordre sexuel, c'est quelque chose qui depuis ma préadolescence, mon adolescence, m'ont profondément marqué. Et ensuite, donc, j'ai réfléchi sur ces questions. Mais de fait, quand je dis que ça a été plus facile pour moi de parler de l'homosexualité que de parler de la honte sociale, du fait de venir d'un milieu très pauvre, je ne veux surtout pas dire que ça a été facile pour moi de parler de l'homosexualité, de me libérer de ce poids et de la honte qui va avec, de ce poids de la condamnation sociale. Mais le marxisme ayant peu à peu disparu et l'idée d'une fierté ouvrière, d'un mouvement ouvrière, il n'y avait plus les catégories pour penser en ces termes-là, tandis qu'apparaissait justement tout un ensemble de mouvements et de réflexions intellectuelles, théoriques, politiques qui allaient avec sur voilà, le mouvement qu'on appelait à l'époque homosexuel dans les années 70, puis LGBT, puis
LGBTQI.
LGBTQI, voilà. Les catégories pour me penser comme gay, les catégories disponibles pour me penser comme gay, les mouvements disponibles pour échapper à cette honte qui avait été la mienne, étaient beaucoup plus présentes que les catégories pour me penser comme fils d'ouvrier. Et évidemment, comme j'ai fui ma famille ouvrière, un milieu dans lequel on ne lisait pas de livres, où la culture n'existait pas, la culture au sens, la culture légitime, au sens sociologique du terme, c'est la littérature, le théâtre, la philosophie, tout ça n'existait pas dans mon milieu. Je me suis inventé comme jeune... M'inventer comme jeune intellectuel, c'était une manière de m'inventer comme jeune gay, sans avoir à dire, quand j'avais 16 ans, que j'étais gay. C'est pour dire simplement, je lisais Marguerite Duras, je proclamais que je lisais Marguerite Duras à 16 ans, ce qui était une manière de dire, d'être gay, il y avait ici une sorte d'imbrication des deux choses. Le jeune gay trouvait un moyen d'être gay sans pouvoir s'affirmer comme gay à 16 ans. Et ensuite, il est évident que, quittant Reims pour m'installer à Paris, poursuivant des études de philosophie, devenant critique littéraire dans des grands journaux parisiens, il est évident que je fréquentais un autre milieu et qu'il n'était pas facile pour moi, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est sans doute pas facile, il n'a pas été facile pour moi de revendiquer ces origines ouvrières que, précisément, j'avais tant chercher
à fuir,
voilà. Et donc, il est difficile de fuir quelque chose tout en le revendiquant. Donc, je l'ai fui, je ne le revendiquais pas, et même j'en avais honte. Et donc, quand j'ai écrit « Réflexion sur la question gay » en 1999, la question que je pose, c'est les modes de domination qui sont liés à l'ordre sexuel, à l'ordre du genre. Et évidemment, ces mécanismes-là que j'ai analysés dans « Réflexion sur la question gay », je pouvais les analyser ensuite, 10 ans après, dans « Retour à Reims »,
pour
la question sociale, c'est-à-dire la honte, le secret, le placard, les amis, quelques amis qui savent, mais qui gardent le secret. Et ce sont des processus mentaux.
Similaires, en fait.
Assez similaires. Mmh. Et donc, ma grande référence pour penser ces questions est évidemment l'œuvre de Pierre Bourdieu, mais aussi les œuvres de Sartre et de Simone de Beauvoir, le grand livre de Sartre sur Jean Genet,
Saint Genet,
comédien et martyr, le livre célèbre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, qui analyse précisément comment dans toute une culture travaille à inférioriser des catégories entières d'individus, qui ne sont pas des individus, mais des gens qui appartiennent à une catégorie et qui sont catégorisés comme appartenant à cette catégorie. Évidemment, tous ces auteurs m'ont permis de réfléchir à ces processus d'infériorisation, de domination et à comment fonctionne le pouvoir dans une société, qui a le pouvoir. Et le début de Réflexion sur la question gay, c'est sur l'insulte.
Qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un qui est insulté.
Non seulement insulté, sale pédé, que j'ai entendu toute ma vie, ça a été une insulte qui m'était directement adressée, soit adressée à d'autres, soit des mots qu'on entend dans la rue, dans le métro.
Va te faire enculer, par exemple.
Voilà. Ce sont des insultes qu'on entend. Et c'est pas seulement être insulté, c'est aussi être insultable. Je sais que je dois faire attention à ce que je fais, je ne peux pas donner la main à mon compagnon dans la rue, parce que l'insulte, au mieux, si ça n'est que l'insulte, on s'en sort bien, parce que l'insulte, c'est pas très agréable, mais c'est moins grave que l'agression physique
qui arrive
très souvent, qui m'est arrivée à plusieurs reprises. Et donc, être quelqu'un dont l'identité est insultable et attaquable, physiquement attaquable, veut dire qu'on est quelqu'un qui doit avoir conscience à chaque instant qu'il faut faire attention à comment on se tient, comment on se comporte, ce qu'on fait, et même dans les milieux professionnels qui semblent les plus... dont on pourrait attendre qu'ils soient les plus tolérants, l'homophobie est sous des formes plus ou moins larvées, latentes, euphémisées, l'homophobie est toujours présente. Et donc, le point de départ de mon livre, c'est l'insulte. Le livre s'appelle... la première partie du livre s'appelle « Un monde d'injures », c'est-à-dire
et
que...
Et le tout premier chapitre s'appelle « Le choc de l'injure ».
Le choc de l'injure. On découvre ce qu'on est, on sait qu'on est quelqu'un qui ne doit pas être ce qu'il est ou ce qu'elle est, et on le découvre d'un seul coup par la rencontre avec l'injure dans la rue.
Est-ce que vous voulez bien, pour ça, lire les toutes premières pages de ce livre-là ?
Je vais essayer, je lis très mal, mais... Au commencement, il y a l'injure, celle que tout gay peut entendre à un moment ou à un autre de sa vie, et qui est le signe de sa vulnérabilité psychologique et sociale. Sale pédé, sale gouine ne sont pas de simples mots lancés au passage. Ce sont des agressions verbales qui marquent la conscience. Ce sont des traumatismes plus ou moins violemment ressentis sur l'instant, mais qui s'inscrivent dans la mémoire et dans le corps, car la timidité, la gêne, la crainte, l'incertitude de soi, la honte sont des attitudes corporelles produites par l'hostilité du monde extérieur. Et l'une des conséquences de l'injure est de façonner le rapport aux autres et au monde, et donc de façonner la personnalité, la subjectivité, l'être même d'un individu. Ça, j'ai écrit ça il y a plus de 20 ans
et je
crois que c'est toujours vrai. C'est toujours vrai pour moi, hein, ce choc de l'injure. Quand il y a eu le grand débat sur le mariage pour tous, l'accès des couples de même sexe à la reconnaissance juridique, au droit à l'adoption, etc. Et pas encore à la PMA, puisque les choses se font vraiment très, très lentement. Et qu'il y a eu ces immenses manifestations d'hostilité.
De
la manif pour tous, qui était vraiment pas pour tous.
Parce que,
et quand j'entendais comme ça ces cortèges qui passaient dans les rues parisiennes, proférant des insultes, des propos orduriers, j'ai ressenti, éprouvé dans ma chair l'effroi, la peur, la panique puisque j'ai aussi un peu dépassé ça. Maintenant, la colère, tous ces sentiments mêlés que j'avais pu ressentir quand j'étais adolescent. La peur, l'effroi, mais pourquoi ces gens m'en veulent tellement ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que des centaines de milliers de personnes viennent défiler contre ce que je suis, ce que tant de gens sont dans les rues de Paris ? Qu'est-ce que ça touche à leur propre personnalité.
Et vraiment, je me pose la question, en fait. Je vous la pose tout à fait naïvement. Mais c'est quoi leur problème, en fait ? C'est quoi le... Pourquoi ?
Ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de gens critiquaient cette revendication du droit au mariage, en disant c'est conformiste et vouloir accéder à une institution qui est bourgeoise, etc. Et en fait, on voyait bien... Puisque si ça avait été si conformiste que ça, il n'y aurait pas eu des centaines de milliers de personnes qui seraient descendues dans la rue pour s'y opposer pendant une année, des manifestations.
Et puis là, ils repartent, hein, ils recommencent à s'organiser.
Oui, ils sont inlassables. Il faut savoir que les batailles ne sont jamais totalement gagnées. On le voit avec le droit à l'avortement en Pologne.
Aux
États-Unis, voilà.
En France, là. Il a été question d'allonger le délai de 12 à 14 semaines par le Sénat, puis finalement ils sont revenus dessus.
Mais
ne nous égarons pas.
Oui.
Sur le mariage, ces gens étaient déchaînés sur l'idée.
Déchaînés parce que il est évident que on voit bien que ces revendications du droit au mariage, à l'adoption, à la filiation, touchaient quelque chose de fondamental dans la perpétuation d'un ordre social, de domination, d'un type de sexualité, d'une représentation de ce qu'est la famille. Il y avait des familles qui existaient, qui demandaient à accéder à une reconnaissance juridique, aux droits qui sont afférents au fait de constituer une famille. Et ça... c'était insupportable pour des défenseurs d'une idée traditionnelle de la famille. Je ne dis pas de la famille traditionnelle, parce que, en fait, la famille traditionnelle n'a jamais... c'est un fantasme,
n'a jamais existé en fait.
Bien sûr. Oui. Dans les réalités, il suffit de lire la littérature ou des livres d'histoire. Même dans les milieux bourgeois, le fantasme de la famille traditionnelle...
Avec un père...
Un homme, une femme qui font des enfants...
Alors qu'en fait, il n'y a que des histoires de remariage,
de
veuvage...
Divorce,
D'hommes homosexuels dans le placard aussi.
Bien sûr, qui, femmes homosexuelles, d'adultères. Moi, je sais pas, il suffit de lire Madame Bovary ou de lire des grands textes de Balzac. On voit bien que la prostitution, que les hommes de la bourgeoisie avaient recours à la prostitution féminine ou masculine. Ce qui veut dire que le fantasme de la famille, un homme, une femme qui vivent ensemble dans un couple monogame et qui ont et élèvent des enfants, c'est un fantasme, une représentation qui ne correspond pas aux réalités. Mais malgré tout, ces fantasmes-là ne sont pas simplement des fantasmes, ce sont aussi des mots d'ordre. C'est-à-dire que c'est ce qui essaie d'imposer, même si ça n'existe, même si les normes sont toujours transgressées par tout le monde, malgré tout, ça n'empêche pas que ces normes-là existent, fonctionnent et sont imposées et réimposées par tout un ordre social, par l'État, par l'école, par la justice, par la police. Enfin, l'ordre social fonctionne avec des mots d'ordre, des principes qu'il faut perpétuer, et qu'il faut accomplir, effectuer et perpétuer. Et évidemment, les couples d'hommes et les couples de femmes existe depuis un certain temps déjà, c'est pas la revendication du mariage qui les a fait exister. Mais la revendication du mariage venait toucher à un principe de l'ordre social, parce que ça met en question aussi la domination masculine. Si c'est deux hommes ou deux femmes, évidemment c'est plus la représentation de l'homme qui est celui qui est dans l'espace public, qui travaille, qui s'intéresse à la politique, qui vote. Et la femme qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, fait la cuisine, la sphère privée, tout cet appareil mental qui est un appareil lié à des formes de domination. Il est évident que toute cette structure sociale était mise en question par cette émergence d'une revendication de la reconnaissance juridique des couples de même sexe. Tout ce que ça a ébranlé, touché dans l'ordre social. Et je me dis que pour des gens qui arrivent maintenant à l'adolescence, ou même avant l'adolescence, les représentations qu'ils auront de ce que c'est qu'un couple, de ce que c'est qu'une famille, de ce que c'est qu'être un enfant, de ce qu'est être gay, ça va être très très différent de ce que moi j'ai pu vivre, puisque moi je n'avais pas ces images-là. Je devais taire mon homosexualité quand j'avais 15 ou 16 ans. Maintenant, il y a des gens qui se marient, et on sait qu'il y a des gens qui se marient, donc ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ça ne fait pas disparaître l'homophobie. Et je dirais que malheureusement, on peut même penser que ça rend une certaine véhémence, violence et acuité à l'homophobie, puisque le fait d'avoir accès à des droits ne fait pas s'estomper ou s'effacer l'hostilité
et
la répression à l'égard des gens qui ont obtenu ces droits.
Mais d'ailleurs, l'association SOS Homophobie dit qu'il y a une très forte augmentation cette année d'actes homophobes qui vont des injures aux agressions.
La visibilité, je dirais que la visibilité, l'affirmation de soi fait augmenter ou s'aggraver, s'accentuer l'hostilité, oui, d'une certaine manière, oui. Si vous restez dans le placard, si vous restez discret, secret, etc., bon, voilà, même si les gens savent que vous êtes gay, ils peuvent se moquer de vous.
Ça ne fait quand même pas disparaître ni les injures,
non, mais,
ni les moqueries.
Mais si vous dites « je suis gay », que vous embrassez votre copain, ou si vous dites « je suis lesbienne » et que vous embrassez votre copine dans la rue, vous risquez Donc l'affirmation, la visibilité produit, fait s'exprimer une hostilité qui est déjà là, mais qui ne trouvait pas à s'exprimer aussi simplement, si ce n'est dans l'insulte comme ça. L'insulte est quelque chose de très très important. L'insulte, c'est toute une. C'est pas un mot comme ça, c'est pas des mots. C'est une structure sociale. L'insulte, c'est ce qui nous permet de voir comment fonctionne toute une structure sociale d'infériorisation de certaines catégories. Alors, c'est vrai pour l'insulte sexuelle, mais c'est vrai pour l'insulte raciste, c'est vrai pour l'insulte misogyne.
Oui, je pensais à ça parce que je marchais dans la rue hier et je me disais, je réfléchissais à toutes les insultes que j'avais pu entendre dans ma vie et qui sont évidemment parce que je suis une femme, donc toujours misogyne, des insultes misogynes, donc salope, sale pute, etc. Et je me demandais, quand on est un homme blanc hétérosexuel, quel genre d'insulte on recevait en fait dans la rue. En réalité, il n'y a pas d'insulte qui stigmatiserait des hommes blancs hétérosexuels. Il n'y en a pas.
Si vous êtes un homme en surpoids, vous pouvez être victime d'une insulte. Si vous êtes handicapé, vous pouvez être victime d'une insulte. Blanc hétérosexuel, mais n'incarnant pas une forme de, une modalité de la masculinité telle que un certain nombre de gens pourraient attendre de vous que vous l'incarniez, vous pouvez être traité de PD, pédale, tapette, etc. Donc l'insulte peut se décliner en de toutes les manières. Et dans le livre que j'ai publié, un des plus récents, qui s'appelle « Le principe d'une pensée critique », qui est un recueil d'essais, il y en a un dans lequel j'analyse un livre de Violette Leduc qui s'appelle « L'abattard ». Donc Violette Leduc, grande écrivaine, amie de Simone de Beauvoir.
Lesbienne, qui a publié dans les
lesbienne, enfin, bisexuelle, qui a publié son autobiographie, dont le premier volume s'appelle « L'abattard ». Avec une préface de Beauvoir. Et dans ce livre, une chose que j'ai relue à l'occasion d'un colloque, une chose m'a particulièrement intéressée, c'est que sa mère, et là, c'est toute une structure, sa mère, qui était femme de ménage dans une famille bourgeoise, couche avec a une affaire qu'elle croit d'amour
avec le fils de la
famille bourgeoise, est enceinte, a une petite fille, donc la petite Violette Leduc, et n'aime pas sa fille parce que pour elle, évidemment, c'est un fardeau qui lui rappelle d'ailleurs qu'elle a eu une histoire avec le fils de famille qui n'avait aucune intention de s'occuper de l'enfant. Et la petite Violette Leduc rentre un jour chez elle et dit à sa mère « C'est quoi, maman, une bâtarde ?» Parce que des enfants viennent de la traiter de bâtarde, sale bâtarde, dans la rue. Et donc elle se dit « Qu'est-ce que c'est ? Maman, c'est quoi une bâtarde ?» Et sa mère rentre en colère « C'est rien. » Et toute sa vie, et c'est le premier volume, 50 ans après ou 60 ans après, c'est le premier volume de son autobiographie, « La bâtarde ». Toute sa vie, elle a porté le poids d'avoir été une bâtarde, c'est-à-dire une catégorie qui aujourd'hui a disparu.
Mais c'est ça qui est très intéressant avec cet exemple, c'est qu'en fait, bâtard, c'est pas une injure, c'est un truc qu'on entend, qu'on peut se dire entre amis, etc., mais qui n'a absolument plus du tout le sens que ça avait avant.
Oui, bien sûr,
personne ne se sentirait insulté.
Si quelqu'un me dit « espèce bâtard, de bâtard », ça ne veut pas dire que...
vous êtes un fils illégitime.
Illégitime,
ou je sais pas quoi.
Naturel, donc, comme enfant naturel,
oui,
comme on disait.
Oui, ça, on disait ça. Enfant adultérin.
Adultérin, voilà. Et ça veut dire que c'est le mouvement féministe qui a fait disparaître cette catégorie, puisque la différence entre l'enfant légitime, né dans le... reconnu par des parents, les deux parents, le père, et l'enfant illégitime, cette catégorie a disparu. Mais malgré tout, on voit bien comment fonctionne l'injure. Violette Leduc a été rendue folle par le fait d'être un enfant, une enfant considérée comme illégitime, ne pas être aimée par sa mère. Elle dit « Ma mère ne m'a jamais donné la main », c'est le début d'un autre de ses livres. Et être toujours quelqu'un qui n'est pas à sa place dans le monde social tel qu'il est. Alors on pourrait dire « Bah, elle pourrait s'en foutre ». Ben non, malheureusement, les choses ne marchent pas comme ça, parce que l'ordre social se rappelle à vous
sans arrêt. C'est ça que j'aimerais qu'on examine maintenant, c'est comment cet ordre social, qui est donc un ordre hétéronormatif, encore très fortement aujourd'hui, se rappelle à vous, à toutes les étapes de la construction quand vous êtes un jeune gay. C'est ce que vous décrivez dans la première partie de votre livre. Peut-être que ça a un peu changé aujourd'hui, on va en discuter aussi. Mais donc ça commence, vous avez dit, par l'insulte. C'est comme ça qu'on réalise, en fait, qu'on est gay ou qu'on peut l'être, et de ce que ça va signifier, de la stigmatisation qui va s'accompagner. Mais vous avez aussi parlé de toutes sortes d'autres instances dans la société, donc par exemple les œuvres d'art. Là, j'ai une statistique où les œuvres de culture populaire, en 2017, il y a encore que à peine 5% des programmes télévisés qui font apparaître des personnages lesbiennes, bi ou gays. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a... Et souvent, ils sont décrits que par leur orientation sexuelle. Ils n'ont aucun autre rôle que d'avoir cette orientation sexuelle-là. Donc ça commence par ça, par exemple, se rappel à l'ordre, l'idée que vous n'êtes pas normal. L'hétéronormativité, c'est aussi le fait que ce qui semble normal, c'est d'être attiré par l'autre sexe, et c'est aussi toutes les plaisanteries qu'on fait aux enfants, hein, de « est-ce que tu vas te marier avec ta petite copine quand on est un garçon ?»« Oh, ils se font des bisous, les amoureux, etc. » Alors que tout le monde trouverait ça vraiment bizarre si on disait la même chose pour des enfants qui sont de même sexe, par exemple. Dans votre livre, vous parlez aussi du moment du coming out, Et ça, c'est aussi un moment qui, là, est célébré, qui est... là, il y a un documentaire qui vient de sortir sur le coming out, mais ça reste un moment qui est quand même extrêmement difficile et qui est dangereux, en plus, dans la vie d'un jeune homosexuel.
Au moins, c'est-à-dire le coming out...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est jamais un seul moment. Il y a un coming out aux amis, aux parents, mais le coming out, ça se reproduit, il faut le reproduire tout le temps. Si vous avez un nouveau prof, un nouveau médecin, ou si vous êtes prof des nouveaux étudiants, vous ne leur dites pas « je dois vous dire je suis gay », mais vous dites une phrase où « hier j'étais avec mon compagnon » et là vous avez stupeur.
Vous l'avez ressenti souvent ?
Oh oui.
Vous l'avez revécu cette scène ?
Oui, très souvent, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et le coming out, c'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas. Si vous allez chez le marchand de journaux qui fait une remarque homophobe, vous n'allez pas lui dire, ben dites pas ça, je suis gay, parce que vous pouvez pas
combattre la terre entière,
voilà,
sans arrêt.
Vous le faites, je vais à la Gay Pride, j'écris des... Mais je peux pas, quand je vais le matin acheter mon journal, j'ai envie d'acheter le journal, de prendre un café, et pas commencer le combat dès la première heure où je sors. Donc il y a tous les moments où on renonce au coming out qu'il faudrait refaire avec le marchand de journaux, avec des collègues, avec des journalistes, avec un médecin,
Il y a un rapport du défenseur des droits qui dit qu'il y a entre 1 et 2 millions de personnes LGBT qui cachent leur orientation sexuelle au travail.
Bien sûr, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, vous êtes victime de quolibets, d'allusions, de remarques déplacées. Et les remarques, comment dire, même si elles ne sont pas agressives, enfin, les femmes connaissent très bien ça dans le monde du travail. Ça peut être des remarques qui ne sont pas agressives, mais qu'au bout d'un moment, finissent par...
Vous remettre sans arrêt à cette place-là,
oui, oui,
ouais. C'est pour ça que c'est pénible.
Par exaspérer les gens qui sont l'objet de ces remarques permanentes, qui réassignent toujours à une place dans l'ordre social, plus généralement, mais aussi tout simplement dans l'espace du bureau, de l'usine, de...
Ah oui, c'est pour ça que c'est peut-être pas forcément très approprié de dire à sa collègue « Comment ça va ma belle ? Comment ça va ma jolie ?» etc.
Oui,
c'est...
oui, et même si c'est gentil,
mais oui, mais non.
Ou « Cette robe te va très bien », on dit « Ah ben, si aujourd'hui on peut plus dire... »
On peut plus faire de compliments,
on peut plus faire un compliment. Ben, bien sûr, alors, on peut dire c'est... après tout, pour une femme, si on dit, si un collègue lui dit « Cette robe te va bien », c'est plutôt sympathique, mais tous les jours, avec tout ce que ça sous-entend, on peut aussi très bien comprendre que ça produise de l'exaspération et qu'on se dise est-ce que je lui dis que son costume lui va bien, que sa chemise lui va bien ? Et on se dit mais voilà, il me fait chier. C'est dans tous ces petits interstices-là de la vie quotidienne que se glissent les modes de catégorisation, où vous êtes ramené sans arrêt à la place que vous devez occuper et dont vous n'avez pas le droit de sortir. Alors, si c'est un compliment, ça va. On peut dire, bon, il y a pire que de recevoir un compliment. Mais si c'est une insulte, et si c'est plus, ça peut être des... Comment dire, si vous êtes gay, vous pouvez être barré dans votre profession, dans votre carrière. Personne ne dira pas...
J'ai d'autres chiffres encore que les hommes homosexuels à poste et à qualification égale, ils gagnent en moyenne 6% de moins que leurs homologues hétérosexuels,
oui.
Dans le secteur privé. Et aussi, les personnes qui ne sont pas hétéros, elles ont un taux de chômage deux fois plus élevé que les personnes hétérosexuelles. Donc ça a produit des effets très très concrets dans les carrières.
Moi je sais qu'on a, parce que des gens me l'ont raconté, que dans des réunions, on pouvait dire de moi « à se péder » ou « à pas se péder » dès qu'il s'est...
Dans le monde universitaire.
Dans le monde universitaire, oui, bien sûr. Alors je dois vous dire, je pourrais dire que ça ne m'affecte pas particulièrement, je m'en fous. Mais de fait, ça, malgré tout, ce qu'on est, ce que chacun de nous est, est quand même façonné par ces remarques qui, quotidiennes, plus ou moins agressives, plus ou moins ces formes comme ça de discrimination d'une certaine manière, d'insultes euphémisées ou pas euphémisées du tout.
Même quand ça ne s'adresse pas à vous directement, par exemple,
même quand ça s'adresse
entendre
pas
des chants homophobes dans un stade
dans
de foot.
Dans un stade de foot.
C'est aussi, je pensais à toutes les dégradations d'œuvres d'art qu'il y a eu dans l'espace public. Donc par exemple, rien que les passages piétons qui avaient été mis en arc-en-ciel dans le Marais, par exemple, qui ont été dégradés encore et encore. La fresque à Paris qui représentait des hommes enlacés. C'est une fresque d'un artiste qui s'appelle Combo Culture Kidnapper, qui avait fait aussi le baiser d'Astérix et Obélix, qui avait fait le mariage de Tintin et Haddock, etc. Et bah, tout ça, ça a été dégradé systématiquement, en fait.
Oui, il y a une hostilité à la représentation de l'homosexualité, même la plus, comment dire, la plus anodine, la plus inoffensive. Quand j'ai publié Réflexions sur la question gay, ce livre est né aussi d'une nécessité pour moi de réfléchir sur, je ne dis pas que c'est une autobiographie déguisée, mais un petit peu quand même, c'est aller chercher ma date de naissance, aller chercher dans le monde social, les structures du monde social qui me définissent, et c'est une autobiographie collective, un autoportrait collectif, si vous voulez, de comment le monde social produit des catégories d'individus, fait entrer les gens dans des catégories infériorisées, stigmatisées, insultées. Donc, Réflexion sur la question gay est née du fait qu'il y avait, dans ma vie quotidienne, des insultes, mais qu'il y avait aussi tout ce discours, vous pouviez lire ça dans Le Monde, dans Libération, dans Le Nouvel Observateur, tous ces journaux qui s'affirment comme progressistes et pour qui le mouvement gay, le mouvement LGBT était communautariste, mettait en péril l'unité de la nation, la communauté nationale, etc.
Ou même les avancées de la gauche avec l'idée que c'était quand même pas le plus urgent à faire,
c'était
alors qu'il y avait un pays qui était en plein chômage et crise du chômage. Est-ce que c'était bien raisonnable de s'intéresser à ce genre de questions, etc., etc. Mais
oui,
la gauche
ne parlait pas beaucoup. Pour faire taire le mouvement LGBT, disait au moment où il y a tant de chômage. Mais
comme ils ont fait avec les mouvements féministes,
mais
d'ailleurs.
Ils ne s'intéressaient pas beaucoup au chômage non plus, oui. Si ce n'est pour réprimer les mouvements de chômeurs en leur envoyant les CRS. Donc
dans votre livre, dans la seconde partie de l'ouvrage sur réflexion sur la question gay, vous revenez sur les étapes cruciales de la construction d'une identité gay ou d'une culture gay au 19e siècle en Europe et au 20e siècle. Et vous l'avez dit dès le début, vous, votre date de naissance, c'est aussi celle du procès de l'écrivain anglais Oscar Wilde en 1895. Pourquoi, comment ce procès-là, il change la culture gay et pourquoi est-ce qu'il est tellement important ?
Oscar Wilde est très très important. Il a été précédé par les discours sur l'homosexualité ne sont pas nés au 19e siècle. Mais disons qu'il y a au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, tout un ensemble de gens, des hellénistes qui travaillant sur la Grèce antique ou des spécialistes de la Renaissance qui utilisent la Grèce et la Renaissance dans leurs études pour faire passer une sorte de ce qu'une historienne a appelé le code homosexuel. Donc il y a une sorte de discours qui sur l'homosexualité qui passe à travers leurs réflexions sur et leurs descriptions de la Grèce antique ou de la Renaissance. Et Oscar Wilde a été l'élève à Oxford, a été l'élève de ses professeurs hellénistes, spécialistes de la Grèce ou de la Renaissance. Son œuvre est beaucoup marquée par ça. Et il invente un discours, on peut dire homosexuel, codé, ou pas, souvent pas codé. D'ailleurs, il y a des versions, les premières versions des livres qui font scandale. Donc il enlève les chapitres qui ne sont pas assez codés, justement, où tout est trop explicite. Ces livres rencontre un écho très, très considérable, et sa vie rencontre un écho considérable, sa manière de vivre, les scandales qui, sexuels qui se... Parce qu'évidemment, la société dans laquelle il vivait n'était pas très accueillante.
Juste pour préciser, les scandales sexuels, c'est pas des affaires de viol ou d'agression.
C'est le fait qu'il vive, enfin qu'il ait des relations sexuelles ou amoureuses, affectives, avec des garçons ouvertement, plus, enfin, ouvertement, ça se sait. Et donc, il sera insulté par le père d'un de ses amants, Alfred Douglas, et comme un imbécile, Oscar Wilde fait un procès en diffamation au père de cet amant qui a dit qu'il pose au sodomite. Oscar Wilde était obligé de réagir parce que sinon, ça voulait dire qu'il acceptait l'insulte et que donc il était discrédité comme homosexuel. Mais s'il réagit, il entre dans le processus judiciaire, et le processus judiciaire ne pouvait pas lui être favorable. Et après, il a fait de très belles déclarations, après une série de procès retentissants, il est condamné à 2 ans de travaux forcés. Et donc, toute cette culture helléniste, tout cet éloge des peintres de la Renaissance, de la philosophie de la Renaissance, etc., chez les universitaires d'Oxford, aboutit chez Oscar Wilde, finit par le faire condamner parce que cette affirmation devient insupportable. C'est comme si on bafouait la culture, on salissait la culture la plus noble en l'homosexualisant. Et donc, il y a là ce coup d'arrêt terrible qui est la condamnation aux travaux forcés. Travaux forcés qui étaient une dureté, l'emprisonnement d'une dureté incroyable. Et Wilde ne s'en remettra jamais. Il mourra quelques temps après sa libération. Mais ça crée un grand, grand traumatisme, cette condamnation. Ce coup d'arrêt, ce que l'ordre social voulait stopper. En fait, l'ordre social, en le condamnant, malheureusement pour Oscar Wilde, en le condamnant, n'a fait que le produire une sorte d'énergie, de réfléchir à ça. Le procès d'Oscar Wilde devient une sorte de lieu où les écrivains viennent. Vous avez chez André Gide, se met à écrire son livre sur l'homosexualité, Coridon, à partir du procès d'Oscar Wilde. Vous avez ça chez Proust, on parle du procès d'Oscar Wilde. Donc il y a toute une réflexion sur cette condamnation qui fait qu'il s'agissait de mettre un coup d'arrêt à la prise de parole homosexuelle et que ce coup d'arrêt déclenche, comme c'est souvent le cas, une nouvelle prise de parole et une intensification de cette prise de parole. Et donc, nous sommes aujourd'hui, toute la deuxième partie de mon livre s'appelle « Spectre de Wilde » parce que nous vivons avec au-dessus de nos têtes ces grands moments de la culture européenne qui sont la condamnation de Wilde, la prise de parole que cette condamnation déclenche en retour, une sorte de résistance à cette condamnation qui se fait à travers l'art, la culture, la littérature, la philosophie, etc. Surtout la littérature, il faut bien dire, la littérature a été un des vecteurs très 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 importants de cette prise de parole.
Pour inventer aussi des nouvelles façons d'en parler oui. Et des nouvelles subjectivités, comme vous dites, formes de vie.
Si vous lisez un livre comme le livre que Gide publie en 1925 qui s'appelle « Les faux monnayeurs », c'est une affirmation de l'homosexualité. Il essaie de réfléchir sur une relation entre un écrivain et un jeune homme. Si vous lisez le Proust, du début à la fin, Proust essaie de réfléchir à l'identité homosexuelle. Qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel ? Alors, bien sûr.
Mais en même temps, c'est ça que vous montrez aussi dans cette seconde partie et dans d'autres œuvres aussi que vous avez écrites, c'est qu'ils sont eux aussi enfermés. Enfin, Proust, par exemple, il n'arrive pas à penser en dehors des cadres qui lui ont été imposés par le discours psychiatrique. Par exemple, il parle du fait d'être inverti, cette idée que, en fait, être homosexuel, c'est être une femme dans un corps d'homme, mais attirée par des hommes virils. Mais que, enfin, il a toute une théorie là-dessus. Et ça a perduré aussi, cette pensée-là, jusqu'à nos jours.
Ça a perduré le discours de résistance à l'ordre social, à la condamnation, est marqué par les discours qui, de légitimation de l'ordre social et de la condamnation. Et Gide, et Proust.
Et Genet aussi.
Et Genet, bien
plus
sûr.
Tard, mais...
Bien sûr, Genet, au plus haut point, reste marqué par les représentations de la masculinité, de l'homosexuel comme n'étant pas
masculin, homme.
Donc toute l'idée du troisième sexe. Mais en même temps, on trouve dans leurs livres des personnages. Vous avez chez Proust une théorie de l'homosexualité. L'homosexuel masculin a une âme de femme dans un corps d'homme. Et alors ça, c'est la grande théorie qu'il affirme. Mais vous avez des personnages qui, tout au long du livre, de la série romanesque, invalident cette théorie qu'il vient lui-même de poser, puisque vous avez l'un des personnages... puisque chez Proust, on découvre petit à petit que quasiment tous les personnages masculins sont gays, enfin, homosexuels, et qui ne correspondent pas du tout à cette image de l'efféminement qu'il voudrait...
qui correspondait à sa théorie, là.
Faire prévaloir comme analyse théorique qui lui vient de la psychiatrie du 19e siècle. Pour subvertir l'ordre, il faut bien tenir un discours, et ce discours
puise
dans les catégories disponibles à un moment, même pour les retravailler, les transformer. D'ailleurs, la simple catégorie d'homosexualité, c'est une catégorie qui a été façonnée par la psychiatrie et qui est reprise ensuite par les mouvements, enfin les discours d'affirmation homosexuelle.
Justement, par exemple, moi j'arrête pas là de dire la question homosexuelle, mais on s'est pas arrêté sur la définition des termes. Pourquoi, enfin, le fait par exemple d'avoir renommé en disant gay, c'était aussi une tentative d'échapper à cette dénomination normative qui venait de la psychiatrie. De même, on ne dit plus les invertis.
On ne dit plus les invertis.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur les sodomites, les invertis, les homosexuels
les homosexuels, c'est une catégorie psychiatrique qui a été reprise. Et comme le dit très bien Foucault, le mot lui-même n'a pas de signification en dehors de la signification ce qu'on en fait. Le même mot peut servir à des fonctions stratégiques différentes. L'épinglage sur le tableau des pathologies.
Je rappelle qu'en France, en 81, je vous coupe, mais jusqu'en 81, c'était encore considéré, l'homosexualité est encore considérée comme une maladie mentale, et il y avait un registre des pédérastes tenu par la police.
Oui, alors le mot homosexuel, il est repris, sa fonction stratégique. Change. Et vous avez, comment dire, ce mot psychiatrique, vous avez en 71, se crée un mouvement qui s'appelle, 1961, s'appelle Front homosexuel d'action révolutionnaire. Donc le mot qui était le vecteur de la pathologisation devient, au contraire, le vecteur de la révolution, de transformation sociale, etc. Le mot pédéraste a souvent été utilisé par les gays eux-mêmes, parce que c'était le mot qui désignait le fait d'être un homosexuel masculin dans les années 50. Je crois que Sartre, dans son livre sur Genet, définit Genet comme un pédéraste. Enfin, c'est le mot qu'il emploie. Et Genet lui-même utilisait ce mot. Il dit un pédéraste comme moi. Donc, c'était le mot qui...
Alors, mais c'est ce qui a donné après l'insulte.
Mais vous savez, le mot queer...
C'est
un mot d'insulte. Queer, ça veut dire...
Bizarre, anormal,
un peu étrange, voilà, spécial, et qui servait à définir les homosexuels de manière péjorative. Dire de quelqu'un « il est queer » était une insulte.
En anglais, donc dans le contexte anglophone.
En anglais, bien sûr. Et c'est la réappropriation d'une insulte que d'utiliser ce mot queer pour... Je me souviens d'une interview de mon amie Judith Butler où elle était interrogée sur le mot queer. Elle est très longtemps, au tout début, quand on me parlait de queer, je voulais pas qu'on emploie ce mot parce que j'étais réticente à employer ce mot parce que c'était le mot par lequel elle avait été
insultée.
Elle-même insultée. C'était un mot d'insulte dans la société dans laquelle elle vivait. Et puis le mot a complètement changé de signification aujourd'hui. Il n'a pas complètement changé. Dans beaucoup de milieux, dire queer, c'est toujours une insulte adressée, ou quand on parle de gens, he is or she is queer. Mais le fait qu'il y ait le mouvement queer, la théorie queer, le...
C'est ce qu'Erwin Goffman appelle donc de retourner le stigmate.
L'inversion du stigmate. Voilà, reprendre le stigmate, seul l'approprier, le faire fonctionner comme le vecteur d'une affirmation de soi. Ce qui veut dire qu'on n'échappe pas, on reprend le mot.
Mais on pense toujours à partir de ces catégories-là.
À partir de cette catégorie-là, voilà.
Ça nous amène à cette question de l'homophobie intériorisée, parce qu'on peut dire en version optimiste, bon, bah, ça va, c'est une inversion du stigmate, ou alors on peut dire que c'est de l'homophobie intériorisée. Et ça, c'est une question que vous examinez aussi et qui me semble traverser là, les réflexions sur Genèse, sur Gide, etc. C'est-à-dire. Comment on tente de se réapproprier et de se reconstruire une subjectivité qui soit valorisée, valorisante, etc. Mais à la fois, on intériorise cette stigmatisation et donc cette haine de soi aussi.
C'est-à-dire que même quand on s'approprie l'insulte, même quand on essaie de s'affirmer soi-même, on n'échappe pas à... Moi, je peux dire... Oui, je suis gay, oui, je suis fier d'être gay, je vais à la Gay Pride, etc. Puis, le soir, je peux en rentrant chez moi, des gens peuvent crier en passant en voiture, PD. Si je suis dans le métro, je peux entendre cette insulte. Donc, le fait de s'affirmer et de s'être réapproprié le stigmate et l'injure ne font pas disparaître ce stigmate, l'injure, et donc l'ordre social dont le stigmate et l'injure sont les expressions, les symptômes. Vous ne défaites pas l'ordre social simplement en vous réappropriant le vocabulaire qui était un vocabulaire dépréciatif. En vous le réappropriant, vous ne lui faites pas perdre, en partie, oui, mais pas totalement perdre sa force de stigmatisation et sa fonction comme modalité du pouvoir d'infériorisation. Donc les deux, encore une fois, sont tout à fait imbriqués. Il reste toujours quelque chose de la honte, il reste toujours quelque chose de la stigmatisation. On ne peut pas échapper totalement à quand on a été façonné par un ordre social qui vous dit vous êtes inférieur, même si vous affirmez que vous ne l'êtes pas, et que vous êtes très heureux d'être ce que vous êtes, ce qui est très bien, je suis pour ça, je fais ça, je prône ça. Malgré tout, il y a toujours des situations dans lesquelles vous êtes rappelé à votre infériorité par tous les processus sociaux, discursifs, culturels, politiques, étatiques de l'infériorisation. Donc on n'échappe pas à cette infériorisation totalement.
Mais comment est-ce qu'on fait pour transformer cette honte en énergie transformatrice? Ça aussi, vous l'abordez dans la troisième partie de l'ouvrage.
C'est une très belle expression de la grande théoricienne américaine Eve Kosofsky Sedgwick, qui dans un livre superbe qui s'appelle en anglais Epistemology of the Closet.
Donc l'épistémologie du placard.
Paru en 1990, qui est un grand livre fondateur des études gays et lesbiennes et de toute la réflexion. C'est un livre qui a été très important pour moi. Analyse justement la manière dont la honte, il ne faut pas avoir honte d'avoir eu honte. Parce que la honte, c'est ce à partir de quoi on se recrée soi-même, on se réinvente soi-même. Et elle parle justement de la honte comme énergie transformatrice. Et cette idée m'a beaucoup marqué. Je l'utilise dans Réflexion sur la question gay ou dans le livre qui a suivi, qui s'appelle Une morale du minoritaire. La honte comme énergie transformatrice. Dans la mesure où on est voué à l'infériorisation, à la honte, à la peur,
à
la dissimulation. Il arrive un moment où on ne peut plus supporter ça et où tous ces processus-là qui vous condamnent au silence, au secret, à la honte de ce que vous êtes, vous les reprenez et tous ces processus, vous les bravez, et vous vous inventez vous-même à partir de ce que l'ordre social a fait de vous. Et cette belle phrase de Sartre, l'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Et ça, je trouve que c'est très très important parce que la honte, au lieu de dire « oh là là, il ne faut pas avoir honte », essayer de nier le fait qu'on a eu honte, qu'on a été victime de, de ces forces d'infériorisation, les assumer et dire « voilà, oui, j'ai eu honte et cette honte, c'est ce qui m'a permis de me réinventer parce que j'en avais marre justement d'avoir honte, d'être voué comme ça à la peur, au silence, à la dissimulation. » la double vie, au secret.
Et donc, il y a tellement de gens qui vivent encore cette vie-là. Il y a un site très populaire aux États-Unis qui s'appelle Post Secret, où les gens envoient des secrets et ensuite ils sont anonymisés puis ils sont publiés sur le site. Et hier, c'était la fête des pères. Là, on enregistre le lendemain de la fête des pères. Et j'ai lu sur ce site Post Secret, il y avait des pages et des pages et des pages de secrets qui étaient « j'ai deux enfants et je suis mariée à une femme et en fait je suis gay » ou des enfants qui écrivaient « je sais que mon père est gay mais je peux pas lui en parler » ou c'était incroyable comme ça reste encore de secret.
Bien sûr, il n'y a jamais dans une société, même quand il y a des transformations très importantes, ça ne change pas toute la société. Et le fait, par exemple, que aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés européennes, il y ait le droit au mariage pour les couples de même sexe, qu'il y ait une visibilité plus grande, qu'il y ait des manifestations de la Gay Pride, n'empêche pas qu'il y a 1000 manières de vivre son homosexualité. Et que parmi ces 1000 manières, il y en a beaucoup qui sont liées au fait que, pour beaucoup de gens, ça reste quelque chose qui est vécu en secret, en cachette même de ses plus proches, notamment pour les pères de leurs enfants, pour les enfants de leur père, et pour les hommes mariés de leur femme. Voilà, et c'est une des choses d'ailleurs qui m'intéresse. J'ai écrit quelques, dans Réflexion sur la question gay, j'ai écrit quelques paragraphes sur ça. Des grands noms de la culture homosexuelle, comme par exemple Oscar Wilde ou André Gide, étaient des hommes.
Aragon.
Ou Aragon. Mais Wilde et Gide étaient mariés. Et Wilde a eu deux enfants avec sa femme. Qu'est-ce que c'est qu'être la femme d'un homme gay? Parce que lui, il avait ses aventures, mais j'imagine que sa femme, à l'époque, ne vivait pas les siennes, ne pouvait pas vivre l'équivalent avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Et la femme d'un homme gay est vouée au malheur, à la détresse, à la mélancolie. Et il faut bien voir que la liberté des uns se paye souvent de l'oppression des autres, même des gens dont on est proche. Et il est évident que, parce que la question du mariage des homosexuels est une vieille question, au moment des débats sur le mariage, tout le monde dit « mais pourquoi est-ce que les homosexuels veulent se marier aujourd'hui ?» alors qu'avant, ils vivaient en dehors du mariage. C'est totalement faux. L'immense majorité des gays et des lesbiennes a vécu dans le cadre du mariage, sauf que c'était des mariages hétérosexuels. Un homme gay avec une femme, ou une femme lesbienne avec un homme. Parfois, un homme gay et une femme lesbienne, c'était des mariages d'arrangement où le mariage a été le mode de vie, a été l'incarnation de l'identité gay pour de très très nombreux hommes gays ou de nombreuses femmes lesbiennes, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Donc tout ça perdure aujourd'hui. Beaucoup d'hommes sont mariés à des femmes dans le cadre de couples hétérosexuels, en cachant à leurs femmes qu'ils sont homosexuels. Et donc, ils doivent avoir des aventures sexuelles en cachette, en secret, souvent en ayant recours à des relations sexuelles tarifées, ce qui peut aussi poser des problèmes de santé, évidemment, parce que quand on fait ça en cachette, furtivement, on peut aussi oublier qu'il est nécessaire de se protéger. Et si on ne se protège pas, on prend des risques pour soi-même, mais on peut aussi prendre des risques pour la partenaire. Donc, toutes ces questions, il n'y a pas une identité gay, une identité homosexuelle. Il y a 1000 manières de vivre l'homosexualité. Et la bisexualité, qu'il ne faut pas oublier, parce que beaucoup de gens qui sont mariés dans le cadre de couples hétérosexuels et qui ont par ailleurs des aventures sexuelles avec des personnes du même sexe qu'eux ou elles, ne peuvent pas tous ou toutes être définis comme homosexuels, mais peuvent être aussi définis comme bisexuels.
J'ai des chiffres là à ce propos, pareil dans les statistiques, parce que j'avais cité 7% d'hommes qui s'identifient comme homosexuels, mais il y en a 3%. 5% qui s'identifient comme bi, par exemple.
Oui, voilà. Oui, oui, bien sûr.
Pour terminer quand même, juste cette première partie de cours particulier, est-ce que vous pouvez nous recommander une œuvre d'art, s'il vous plaît, Didier Ribon ?
Ah, il y en aurait beaucoup. J'hésite. Je dirais le film d'Almodovar, Tout sur ma mère, puisque il s'agit d'un jeune homme qui voulait savoir qui était son père, avec qui sa mère avait rompu, et qui, sur toutes les photos où on voit la mère, la partie où il y avait le père est coupée, déchirée. Et puis le jeune homme meurt, mais pour aller dire au père biologique de cet enfant qui vient de mourir que l'enfant est mort, la mère en question part à la recherche du père qui est un transgenre qui s'appelle Lola. Et donc ici, Almodovar, dans un film absolument magnifique.
Ouais,
enfin,
magnifique,
il a fait des grands films, ouais. Almodovar, et son dernier film d'ailleurs,
Douleur et gloire,
et j'ai trouvé superbe, d'une très très grande beauté.
Merci beaucoup Didier Ribon.
C'est moi qui vous remercie.
C'était la première partie du cours particulier avec Didier Ribon, à la prise de son et à la réalisation Quentin Bresson. Merci à Nadia Chapelle, la stagiaire de l'émission, pour son aide. Et Les Couilles sur la Table, c'était un podcast de Binge Audio. Pour m'écrire, l'adresse c'est toujours lescouillessurlatable@binge.audio. Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 000 lieues sous ma chair » dans le podcast « Le cœur sur la table ».
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.